Mazarine Pajot, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de votre nouveau livre « Inappropriable, ce que l'IA fait à l'humain » qui vient de paraître dans la collection Climat aux éditions Flammarion. Et donc, dans ce livre, vous essayez de comprendre, dans cette chose qui, effectivement, depuis maintenant 3 ans et le surgissement grand public de ChatGPT nous obsède tous et tous. On a reçu plusieurs rencontres à la station Ozone autour de la question de l'IA. Mais là, vous avez fait le choix de l'aborder par deux biais qu'on a jusqu'alors ici peu traités. C'est pas tant la question technique de l'IA, de qu'est-ce que ça change techniquement en termes d'algorithme, en termes de conception informatique, mais qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre IA, langage et vérité. Et comment, forcément, dès lors qu'on fait jouer ces trois termes, la question de la démocratie et du rapport de la vie publique et du rapport à la politique rentre forcément en ligne de compte. Donc, il est évidemment question d'IA dans votre livre, mais finalement, il en est plus question comme une sorte de symptôme ou d'état terminal d'un certain état de la technique que de l'IA comme rupture. C'est presque plus quelque chose qui est poussé à bout qu'une rupture technique qui aurait surgi comme ça ex nihilo. Alors, peut-être pour commencer, justement, vous ouvrez le livre en disant que la question pour vous que pose l'IA, c'est deux choses. D'abord, cette question, elle intervient dans un certain état du monde et qui n'est pas causé par l'IA, mais dans laquelle l'IA est particulièrement agissante parce que l'état du monde est celui qu'il est. Et cet état du monde, vous le dites, se caractérise par un rapport à la vérité qui, lui, connaît une mutation très profonde.
Alors oui, merci pour cette introduction. Alors en effet, déjà, je n'aborde pas l'IA d'un point de vue technique, j'en serais bien incapable et bien illégitime, n'étant pas ni informaticienne ni ingénieure de formation. Mais bon, je me suis un petit peu penchée quand même sur la question pour arriver à savoir de quoi je parle. Mais ce sont évidemment les conséquences plus philosophiques, politiques, de l'arrivée massive de cette IA générative qui fait quand même un peu rupture par rapport à l'IA qui existait déjà et qui avait déjà colonisé tous nos espaces. L'IA générative, pourquoi ? Parce qu'en effet, avec cette IA générative qui est arrivée dans nos vies à peu près en 2022, on a affaire à une machine qui parle comme vous et moi, c'est-à-dire qui articule un langage qui n'est pas de l'ordre du copier-coller, qui n'est pas quelque chose qui est juste ajusté, mais qui est un contenu original. Et cette production d'un langage humain, entre guillemets, après on pourra évidemment essayer d'analyser plus finement la distinction qu'il y a entre le langage de la machine et le langage humain, mais en tout cas, à première vue, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on serait bien en peine de pouvoir différencier une réponse de ChatGPT d'une réponse d'un être humain, d'ailleurs avec des erreurs des deux côtés. La machine n'est pas infaillible, mais bon, l'homme non plus. Donc, d'un point de vue purement grammatical ou du point de vue sémantique, du point de vue du sens, je reviendrai sur la question du sémantique parce que ce que produit ChatGPT, c'est un discours qui a du sens. On lui pose une question, il nous répond. La réponse est pertinente. Encore une fois, parfois erronée, mais il n'empêche qu'elle est pertinente. Et en plus, elle est différente en fonction de ce qu'on lui demande et même du moment où on le lui demande. C'est-à-dire qu'on peut même poser plusieurs fois la même question et le contenu sera différent. C'est dire qu'il est vraiment original. Original dans le sens où il n'est pas duplicable. Alors après, que veut dire original dès lors que le fonctionnement même de ChatGPT ou autre intelligence artificielle générative, c'est des algorithmes et c'est un fonctionnement statistique. Et donc, ça travaille à partir d'une base de données déjà là. Ça n'invente rien de radicalement neuf. Mais après tout, on peut se dire, l'imagination humaine, peut-être qu'elle n'invente rien de neuf non plus et qu'elle ne fait que compiler des éléments épars et qu'elle leur donne une nouvelle forme. Et ça. Donc jusque-là, rien de radicalement différent entre ce que produit la machine et ce que produit l'homme. Et donc, ce simple constat assez vertigineux que tout le monde a pu faire et qui nous met dans une situation un peu d'interpellation m'a particulièrement intéressée du point de vue de la philosophie et pour plusieurs raisons. D'abord, la première, elle est très pragmatique. Le langage, c'est traditionnellement, on va dire, pas chez tous les philosophes, mais chez un certain nombre, et Descartes faisant partie de ce panthéon, le langage est ce qui permettait de manifester, de rendre manifeste la pensée qui elle-même pouvait être supposée comme étant le propre de l'homme. Si c'est la pensée qui distingue l'homme du reste du monde, des animaux comme de la machine, alors le langage en était l'indice. En tout cas, dans la philosophie classique, le langage, c'était ce qui nous permettait de reconnaître un autrui dans un autre, c'est-à-dire de reconnaître derrière les oripeaux de la machine, derrière l'automate, et Descartes parlait déjà d'automate, un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est en chair et en os et qui a une âme, en l'occurrence, et qui donc a surtout une intelligence capable de produire des raisonnements et produire de la réflexion, et donc produire du langage et un discours. Et donc, il avait déjà lui-même fait cette. C'est d'ailleurs très, très fascinant de voir qu'un texte du 17e parle d'automates portant chapeau et manteau, et donc que rien ne distinguerait de loin d'un homme. Mais à partir du moment où on lui pose une question, s'il ne peut pas répondre, eh bien, ça veut dire que c'est une machine. Alors, ça, c'est le test de Turing qui permet de distinguer. Qu'est-ce qui fait qu'on peut distinguer un homme d'une machine? Jusqu'à présent, c'était le langage. Or, à partir de ChatGPT, et à partir en général, je vais dire ChatGPT pour être plus rapide, mais bon.
Tout le monde voit de quoi.
Voilà, on voit tous de quoi je parle. Puis c'est celui que j'utilise. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais bon, pour l'instant, je l'utilise encore. Et cette IA générative, en tout cas, ne fait plus passer le test de Turing. À la machine, puisqu'on ne peut plus distinguer l'homme de la machine, en tout cas du point de vue du langage. Donc évidemment, ça pose tout un tas de questions. D'abord, la première, c'est qu'est-ce qui va différencier, du coup, l'homme de la machine Et en fait, si on se pose sérieusement la question, c'est pas si simple d'y répondre. Alors, on peut tout de suite dire le corps. OK, mais mettons de côté le corps. Évidemment, on va reparler peut-être du corps tout à l'heure, parce que c'est central, mais pour l'instant, mettons de côté le corps. Qu'est-ce qui fait que dans un autre, imaginons que la robotique ait fait un progrès considérable et qu'on arrive vraiment à imiter des êtres humains de façon indiscernable par, je sais pas, une peau, des cheveux, etc. Enfin, qu'en face de nous, on ait un robot qu'on puisse pas distinguer d'un être humain. Qu'est-ce qui fait que ce robot est différent d'un être humain? La question, elle mérite d'être posée. Alors, on pourra dire, oui, c'est son intériorité, mais quand je le rencontre, je n'ai pas accès à l'intériorité de quelqu'un. Je n'ai pas accès à l'intériorité de la machine, je n'ai pas plus l'accès à l'intériorité de quelqu'un. C'est-à-dire que la question de l'altérité, de toute façon, elle est très énigmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me dit que l'autre être humain en face de moi est vraiment un autre? Et d'ailleurs, la plupart du temps, dans nos relations avec les autres, on ne respecte pas forcément leur altérité, c'est-à-dire on les prend soit comme des objets, on les utilise, on peut les manipuler, ou comme, ils peuvent nous aider à faire quelque chose, une tâche, etc. Mais c'est rare qu'il y ait une vraie relation d'altérité, une rencontre, où tout à coup quelque chose se passe de radicalement neuf et de radicalement humain. Donc on peut très bien envisager des relations avec la machine. Et d'ailleurs, ça existe déjà, tous les assistants, les bots, etc. On a déjà des relations avec la machine qui fonctionnent. C'est pas parce que c'est une machine que ça fonctionne pas. Et le problème du langage, alors j'arrive maintenant au problème, c'est que le langage, comme longtemps ça a été considéré comme l'indice d'une humanité en l'homme, eh bien, très nécessairement, ça implique une forme de projection anthropomorphisante, mais pas très joli, de projection de qualité humaine sur ceux qui parlent. C'est-à-dire que si quelqu'un vous répond, nécessairement, vous allez projeter des vertus humaines, des qualités anthropomorphiques sur la machine. Et on voit très vite que dans notre relation à la machine, on commence à la tutoyer, on lui pose des questions. Moi, quand je fais un prompt sur ChatGPT, je mets les formes, je lui demande « peux-tu, s'il te plaît ?» Puis à un moment donné, je lui dis « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est une machine ?» Et en fait, c'est ce biais-là, il n'est pas contingent. C'est ça qui est intéressant. C'est que dès lors qu'il y a du langage, il y a nécessairement de la projection dans une relation. Et qui dit relation, dit relation humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un tas de problèmes qui va se poser. D'abord, du point de vue de l'altérité, mais ça, peut-être qu'on y reviendra. C'est-à-dire que à partir du moment où je peux parler à quelque chose qui me répond et que ça me donne une illusion, un sentiment de relation, de la même manière que j'ai plein d'amis sur les réseaux sociaux et que ça me donne un sentiment, une illusion de communauté, alors qu'en réalité, je suis seule. Eh bien, ce qu'on appelle la bulle ou la clôture algorithmique va évidemment se renforcer. C'est-à-dire que j'ai plus forcément besoin de parler à d'autres si j'ai déjà mon meilleur ami qui est dans ma poche et qui, en plus, est toujours d'accord avec moi et qui ne va jamais me contredire. Et donc, il y a une forme de renforcement d'un narcissisme et d'un égotisme qui va également renforcer les frontières entre moi et les autres, et donc tout ce qui s'ensuit, la peur, la crainte, la haine, enfin toutes sortes de sentiments qui sont pas très propices à l'idée de vivre en commun avec d'autres et d'essayer de dialoguer, y compris de se confronter à eux. Et donc c'est aussi l'habitude, la connaissance du conflit, la pratique du conflit qui s'amenuise au fur et à mesure. Or, le conflit, il est quand même un petit peu à la base du régime démocratique. Il est à la base du régime démocratique de la même manière que le langage est le matériau même du régime démocratique. Le langage, la démocratie, c'est le seul régime qui met au cœur de son fonctionnement le langage. Tous les autres régimes utilisent le langage pour donner des ordres, éventuellement, mais c'est tout, ou pour punir, mais c'est un langage à sens unique. La démocratie, c'est le régime politique qui s'organise autour du débat, autour du dialogue, autour du conflit, lequel conflit, dès lors qu'il est symbolisé, ne peut s'énoncer qu'à travers le langage. Sinon, le conflit, il est immédiat, direct, et c'est l'affrontement, quoi, et c'est la mise à mort.
Ce qui crée la force, ce que vous évoquez dans le livre, la force et la faiblesse de la question démocratique, puisque à la fois c'est la fin d'un absolu de la vérité, donc la démocratie dès le début met en cause la question de la vérité en disant il n'y a pas de vérité transcendante, il n'y a de vérité que celle qui sort du débat entre les individus, et en même temps elle ne peut pas se faire sans la vérité.
Voilà, on a un dilemme tragique, mais la démocratie c'est un régime tragique, puisqu'elle est faite de contradictions. Elle est faite de contradictions et sa bonne santé, c'est d'arriver à tenir ensemble ces contradictions sans que l'une ne l'emporte sur l'autre. Et donc, en effet, on est vraiment tenu entre deux choses, à savoir un principe de vérité. Et vous avez raison de le rappeler, la démocratie, c'est justement celle qui remet en cause l'idée qu'il y ait une vérité transcendante, absolue, qui serait divine ou que sais-je, puisque par définition, la démocratie, c'est le régime de la remise en cause permanente de sa propre légitimité et donc de la vérité. Un homme, une voix, chacun a le droit à avoir une opinion. Si on considère qu'il existe une vérité, alors quid de l'opinion, quid de la pluralité, qui est l'une des conditions de possibilité de la démocratie. Mais en même temps, donc d'un côté, effectivement, la démocratie, c'est le régime qui remet en cause l'idée d'une vérité absolue, sans quoi on rentre dans ce qu'on appellerait une épistémocratie, voire une technocratie. La technocratie, c'est celle qui considère qu'en fait, un pays, ça se gère comme une entreprise et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des idéologies, des combats, puisque de toute façon, il suffit d'avoir une connaissance, une science suffisante pour savoir comment organiser la vie en commun des hommes. Donc la technocratie, c'est une forme de vérité transcendante aussi qui permet d'évacuer les conflits politiques. Mais la vraie la démocratie idéale, on va dire, fonctionne autour du conflit. Donc, conflit, certes, parce qu'il n'y a pas de vérité transcendante, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose qui soit de l'ordre du commun pour qu'il puisse y avoir du conflit. On est en conflit que s'il y a quelque chose qu'on reconnaît comme commun. C'est-à-dire qu'on peut être en conflit sur le fait que, je ne sais pas, que ce micro marche est trop près de moi et donc à la fin, je vais finir par le faire tomber. Mais parce qu'on reconnaît tous les deux qu'il y a un micro auprès de moi. Si tel n'était pas le cas, si vous me disiez il n'y a pas de micro et de toute façon, on n'est pas du tout à la station Ozone, on est je ne sais où, mais comme le fait très régulièrement Trump, c'est pas une boutade, eh bien, il n'y aurait pas de conflit. Enfin, c'est-à-dire que les conditions même de possibilité du conflit ne seraient pas là. Donc, à la fois, il n'y a pas de vérité transcendante, et on doit l'admettre, si on veut vivre en démocratie, on doit admettre que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Et en même temps, il faut quand même qu'il y ait une forme de réalité minimale partagée, qui est le fait que nous sommes tous bien là, et nous pouvons en discuter, c'est-à-dire nous pouvons dire, moi, j'en suis pas très heureuse, moi, au contraire, je suis très content, etc. Mais au moins, il y a ce socle commun. À partir du moment où le socle commun est mis en danger Et en l'occurrence, il est ici vraiment mis en danger par les nouvelles technologies, ça on peut le dire. Non qu'il était déjà très performant avant, mais je veux dire, ça a toujours été difficile hein, de garder quelque chose qui soit de l'ordre du commun. On sait bien qu'il peut être mis, enfin, volé en éclats par les croyances, par exemple. Et les croyances, elles peuvent prendre plein de formes. Mais très clairement, aujourd'hui, les nouvelles technologies, et donc aujourd'hui l'IA générative, remet en cause cette question du socle commun. Et s'il n'y a plus de socle commun, il n'y aura plus que de la conflictualité, mais même plus de la conflictualité, parce que ça ne sera pas une vraie conflictualité, il n'y aura plus que du conflit. Et là, il y a toutes les conditions de la guerre au sens propre comme au sens figuré.
Parce que, et vous l'avez évoqué en passant, la vérité elle-même n'est pas une notion transcendante. C'est-à-dire que non seulement la vérité n'est pas transcendante en tant que contenu positif, mais en tant que concept, elle ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est que vous évoquez dans le livre le fait que, par exemple, l'un des problèmes de la façon dont le n'importe quoi, si l'on peut dire, s'est imposé médiatiquement au moment du Covid, c'est qu'on n'a pas tenu compte à quel point le régime de vérité démocratique, politique et le régime vérité de la science ne relèvent pas du même régime. Et qu'en fait, c'est la difficulté de ces mots, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y attarde un peu. C'est-à-dire que la notion de vérité, on aimerait tous y être attaché profondément, en même temps quotidiennement, on en fait fi, mais parce que ça ne recouvre pas non plus une réalité unique.
Absolument, c'est la grande difficulté aujourd'hui avec cette question de vérité et aussi avec la question de la science qui subit un discrédit sans précédent. Et donc, le problème, en effet, hein, de la vérité, il est multiple. Et puis, le mot vérité lui-même est trompeur, parce que ça peut désigner pas mal de choses très différentes. Mais si on reprend au départ, il y a la vérité, d'abord, c'est une question de langage. Elle ne s'énonce que dans et par le langage. Il n'y a pas de vérité, je ne sais pas, d'une bouteille. Un mot ne suffit pas à produire une vérité ou une chose n'est pas l'objet d'une vérité. Il faut énoncer une proposition qui, elle, est vraie ou fausse. C'est-à-dire le verre est bien sur la table ou le verre est vide ou le verre est plein. S'il est plein, ma phrase est vraie. S'il est vide, elle est fausse. Et donc la vérité, elle est entre l'adéquation entre mon énoncé et le réel que cet énoncé est censé désigner. Donc, de toute façon, c'est d'abord une question de langage. Enfin, c'est dans le langage qu'on peut dire le vrai ou le faux. Donc, c'est pour ça que la question de l'IA générative, mais j'y reviendrai après, qui produit du langage, va évidemment avoir partie liée avec la vérité. Ensuite, le problème, en effet, de la vérité en démocratie, c'est que, vous l'avez dit, d'un côté, il n'y a pas de vérité transcendante, en tout cas, il n'y a pas de vérité politique transcendante. Ça veut dire qu'il n'y a pas... comme dans la République platonicienne, une idée d'une République absolue qu'il faudrait essayer d'imiter pour arriver à une harmonie parfaite des uns et des autres, et donc à une sorte de République, voilà, d'un bien commun que tout le monde pourrait servir. Cette idée dans l'absolu n'existe pas. Alors, certains pourraient le penser, mais en tout cas, si on veut être radicalement démocrate, il faut y renoncer. Il n'y a pas une idée d'un... Voilà, enfin, il n'y a pas une république idéale qu'il faudrait connaître par la pensée pour l'appliquer tout simplement dans le réel. Donc cette vérité-là, en tout cas, on peut en faire le deuil si on est démocrate. Évidemment, ça n'implique pas qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Le problème, c'est que parler de vérité scientifique, c'est aussi un peu un abus de langage, parce que un résultat scientifique, c'est toujours une construction, et voire une co-construction collective, collégiale, de chercheurs, de toute une communauté scientifique qui se met d'accord, voilà, pour après preuve et vérification, pour dire voilà tel est l'état du monde pour l'instant, tel est l'état de, je sais pas, de découverte biologique, sachant que cette vérité pourra toujours être remise en cause un jour si on découvre un nouveau phénomène qui viendrait réinterroger ces résultats, voilà, au regard d'une nouveauté, mais ça ne veut pas dire que c'est... Et donc, à partir de ça, on a considéré que la vérité scientifique aussi était relative. Évidemment, ce n'est pas du tout la même relativité. La vérité scientifique, elle est toujours work in progress, elle est toujours en train de se faire. L'état de la recherche, il est toujours vivant et dans un long processus. Donc, une vérité scientifique, c'est toujours une étape de la vérité scientifique. Mais néanmoins, il y a quand même ce qu'on appelle le régime de la preuve. C'est-à-dire que la vérité scientifique, elle est quand même beaucoup plus coriace que la vérité, que la vérité politique. On n'est pas du tout dans le même régime, en effet. Et le problème de l'espace public, et là, on revient à notre question de l'IA, mais aussi des réseaux sociaux, c'est que l'espace public homogénéise tous les discours. Dans l'espace, le nouvel espace public, par exemple celui des réseaux sociaux, mais même celui des médias traditionnels, sur un plateau de télé, par exemple, et vous avez mentionné la crise du Covid, tous les discours arrivent dans le même canal et par le même canal. Et donc, d'une certaine manière, sur un plateau télé, lorsque vous interrogez un grand spécialiste, je ne sais pas, un épidémiologiste, et puis ensuite un journaliste généraliste, et ensuite vous faites un micro-trottoir, ces différents discours, finalement, finissent par se niveler du seul fait du même canal. C'est-à-dire, on regarde une émission de télé, et puis tous ces discours sont mis en commun, sont éventuellement confrontés les uns aux autres. Mais finalement, le statut de l'un s'efface. Enfin, il y a une forme de nivellement du statut du discours. Et encore plus sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, on sait bien que ce qui va fonctionner dans un message qui va circuler beaucoup plus qu'un autre, c'est pas sa validité scientifique, c'est plutôt son succès commercial, au sens où aujourd'hui, on le sait bien, et ça date pas d'hier non plus, une information est d'autant plus relayée qu'elle est plus excitante, qu'elle est plus jouissive, qu'elle est éventuellement disruptive, qu'elle produit de la peur, qu'elle produit du scandale. Et donc, si l'espace public valorise ce qui apparaît comme tout espace public. L'espace public, c'est le lieu où quelque chose apparaît. C'est ça le sens premier de la publicité. C'est ce qui apparaît. Or, ce qui a le plus de chances d'apparaître aujourd'hui dans les discours, c'est ce qui a le plus de succès. Mais ce qui a le plus de succès, évidemment, n'est pas indexé à une vérification ou une authentification de la communauté scientifique. L'authentification ou la validation d'un fait par l'autorité scientifique, a une valeur, alors je vais essayer d'être clair, mais à une valeur qui est indexée à une verticalité, c'est-à-dire à une extériorité par rapport à son message. Si je dis, la Terre est ronde, là, je pense que ça sera pas trop technique, cet énoncé, il est validé à travers une extériorité qui est la communauté scientifique avec des preuves, des calculs, etc. Bon, l'exemple, il est nul, hein, mais bon, on s'en fiche, comme ça, tout le monde comprend. En revanche, si je dis la Terre est plate, si je dis n'importe quoi, mais pourtant, ce message est beaucoup plus excitant que celui de la Terre est ronde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il apparaît plus. Autrement dit, l'espace public est en phase d'être colonisé par des énoncés publics, mais d'autant plus publics qu'ils s'adaptent à des canaux qui favorisent ce type de discours. Et les canaux, ce sont les algorithmes. Et les algorithmes, on ne les maîtrise pas. Mais à un moment donné, c'est eux qui vont nous maîtriser.
Avec une autre donnée qui touche exactement ce dont vous parlez là, qui est que l'autre différence du rapport du régime de vérité entre la politique et la science, c'est la question de la majorité. C'est-à-dire que pour sortir justement du conflit permanent, la politique et spécifiquement la forme démocratique de la politique prend la solution de la majorité, c'est-à-dire que l'électoral ou autre, qui permet de prendre une décision à un moment donné, et qu'effectivement le régime scientifique ne peut pas être soumis à la question de la majorité, et que justement, en eux, au milieu, vient se jouer la question des réseaux qui va consister à faire passer pour majoritaire quelque chose qui ne l'est pas.
Absolument. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte d'inversion du visible et de l'invisible, et donc justement de cette publicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un effet de majorité, alors l'assentiment va être entraîné. Et on remarque que sur les réseaux, sur la toile en général, c'est souvent les minorités qui sont le mieux organisées, les minorités agissantes. C'est-à-dire que la majorité silencieuse, elle ne s'organise pas pour apparaître sur les réseaux, elle s'en fiche. Elle n'a pas besoin de relayer une non-opinion ou bien une opinion complexe, on va dire. D'abord parce que c'est difficile de relayer une opinion complexe aujourd'hui, précisément parce qu'il n'y a plus les canaux pour le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment la forme c'est la forme du transmetteur qui décide du message. C'est ça, c'est là où la technologie elle induit des biais, c'est qu'elle n'est pas neutre, c'est qu'elle décide elle-même, elle formate de plus en plus le message. Oui, bien sûr, il y a une forme de, comment dire, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est comment le fait que la condition de possibilité d'apparaître est normée en amont par un certain formatage algorithmique. Or, encore une fois, les gens les plus organisés savent très bien comment ça fonctionne. Et de toute façon, ils y ont tout intérêt. Enfin, c'est leur métier que de s'intéresser à la façon dont ça fonctionne. Et le résultat est qu'ils apparaissent beaucoup plus présents que ne le seraient ceux qui ne sont pas organisés. Et donc, si la majorité, c'est ce qui est visible, alors effectivement, sur les réseaux sociaux, on a une inversion de ce qu'on pourrait appeler la représentation qui nous contraint justement à interroger ce que ça veut dire représenter. Est-ce que représenter, ça veut dire avoir une présence proportionnelle à l'ensemble de la population ? Bon, on pouvait imaginer, même si ça jamais été vraiment le cas, qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une sorte de... Voilà, de camembert qui était à peu près représentatif de la population. On est dans un monde idéal là, mais voilà,
imaginons, au moins d'un point de vue politique,
voilà, que c'était représentatif. C'est ce qu'on appelle la représentation sociologique, c'est-à-dire et qui se croise à une autre forme de représentation qui est la représentation mandat. Mais voilà, l'idée qu'il y a quand même ça correspond à peu près, telle proportion correspond à peu près à telle proportion de Français, par exemple. Eh bien, sur les réseaux, c'est inversé. Enfin, c'est la proportion inversée. C'est-à-dire que plus c'est visible, moins c'est représentatif. Sauf que ça a quand même des effets de bord, ça a des effets de réel. Puisque plus c'est visible, plus on se dit, ça veut dire que c'est quand même la majorité. Et donc, on est un peu déstabilisé et on finit par suivre. Et donc, cette inversion de la représentation peut produire, dans le réel... reproduire finalement une vraie représentation à force d'être performative en quelque sorte.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous énoncez qui est très important parce que c'est ce mode réel est décisif puisqu'il est au cœur de cette double question qui est celle de la vérité et celle de la technologie et a fortiori de l'IA. Puisque l'IA, normalement, le langage, certes, vous l'avez évoqué au début, présenté la façon dont le robot parle, si l'on veut, sauf qu'il manque quelque chose, qui est la question du référent, et du référent au réel. Or, ce référent au réel, il est au cœur de la question de la vérité, et que dès lors qu'on y renonce, c'est l'intégralité, justement, de l'espace public, de l'espace démocratique qui vole en éclats.
Exactement, puisque, on l'a dit tout à l'heure, la vérité se situe dans le langage, dans l'adéquation entre le langage et la chose. Enfin, je raccourcis, mais voilà, on va partir de cette définition classique de la vérité. Et donc, elle est censée, le langage est censé, entre autres, il a plusieurs fonctions, mais entre autres, il a une fonction référentielle qui est censée dire quelque chose sur le monde. C'est-à-dire que si je parle, c'est que a priori, j'ai quelque chose à dire sur le monde et que je veux partager. Et autre chose, quand je parle, et on imagine que lorsqu'on parle là ensemble, mais aussi peut-être lorsqu'on parlera tout à l'heure, on a quand même une visée de vérité. Parce que la question de vérité, elle n'est pas seulement dans l'adéquation entre le mot et la chose, entre la pensée et la chose. Elle est aussi une sorte d'idée régulatrice qui organise normalement nos conversations. C'est-à-dire que l'idée, lorsqu'on se parle, même au café, lorsqu'on se raconte notre soirée de la veille, c'est qu'il y a une sorte de présupposé entre les interlocuteurs qui est tout simplement « je ne raconte pas n'importe quoi ». Sinon, quel est l'intérêt de raconter une soirée que je n'ai pas vécue à quelqu'un qui ne me croirait de toute façon pas parce que il y aurait une telle défiance relative au langage qui fait que tout ce qu'on dit n'a plus aucune espèce d'importance. Quand on s'adresse à quelqu'un, c'est a priori, on veut lui dire quelque chose qu'on pense. Et la personne qui reçoit cette parole, a priori, elle se dit, on veut me dire quelque chose. Donc j'y crois, quoi. Il y a un minimum de croyance dans une forme de rationalité partagée. Sinon, parler ne veut plus rien dire. c'est ça que Kant dit, hein, lorsqu'il parle de l'interdiction absolue du mensonge, c'est que si on généralise le mensonge, alors parler n'a plus aucun sens. Donc c'est déjà, il y a cette idée que parler est régi de manière sous-jacente par l'idée régulatrice de la vérité. Même si, encore une fois, on ne va pas dire une vérité absolue, mais en tout cas, on va dire, a priori, on est de bonne foi, sinon ça ne sert à rien de parler. Donc il y a cette première chose. Ensuite, la deuxième chose fondamentale, en effet, c'est la question de la référentialité. Donc je dis quelque chose du monde. Voilà. Je parle de ma soirée d'hier, bon, a priori, c'est qu'elle a eu lieu et que j'ai eu, voilà, je l'ai perçue comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres manières de la percevoir, mais en tout cas, ça a eu lieu. Cette référentialité, elle est extérieure à mon langage. Elle est présupposée par mon langage. Mon langage ne peut pas prouver qu'elle a eu lieu. Je ne peux pas prouver... c'est vraiment l'argument négationniste. Hein. On ne peut pas discuter avec un négationniste parce qu'on ne peut pas prouver que quelque chose a eu lieu si l'autre nie tout simplement le fait que ça a eu lieu. C'est toute la difficulté et tout le questionnement... les questions que se sont posées d'ailleurs des gens comme Vidal-Naquet qui s'est dit « Est-ce que je discute avec un négationniste ?» Alors, il fait quand même tout un article pour dire « Non, il ne faut pas discuter, mais tout en discutant avec. Enfin, » bon, voilà, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui nie le réel à partir du moment où il n'y a plus les conditions de possibilité pour dialoguer, puisque justement, il n'y a plus ce commun, cette réalité commune. Mais cette réalité commune, encore une fois, elle est extérieure au langage. C'est la référence sous-jacente qui n'est jamais dite, enfin, qui est présupposée par toute forme de conversation. Elle est là, elle est le support, elle est vraiment le soubassement d'une conversation, d'un langage, etc. Et donc... cette extériorité au langage, elle peut pas être intégrée dans un algorithme. Par définition, l'algorithme, il fonctionne en vase clos, à partir d'une masse de données. Et donc, il peut pas intégrer l'extériorité du monde. Et ce qui fait que la plupart des... enfin, la production de ChatGPT et des intelligences artificielles génératives fonctionne uniquement à partir d'une base de données déjà là. Immense. Ce qui fait qu'elle peut vraiment produire plein de réponses différentes. Mais au fur et à mesure où elle produit des textes, en fait, il va y avoir une proportion croissante de textes à partir desquels elle génère des textes qui seront produits déjà par elle-même. C'est-à-dire que, en fait, on peut même imaginer une sorte de dégénérescence programmée, puisque si on regarde sur la toile, c'est difficile de chiffrer ça, mais en gros, il y aurait déjà quasiment la moitié des textes produits qui sont eux-mêmes déjà produits par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour produire du contenu, elle se réfère à elle-même, qui en dernière instance se réfère quand même à des datas qui sont la numérisation du monde réel. Mais bientôt, on n'aura plus besoin du monde réel pour produire des textes. Et donc la question de la référentialité sera de toute façon nulle et non avenue. Elle n'aura même plus lieu d'être. Et le langage pourra fonctionner très bien, enfin, d'un point de vue purement technique. C'est-à-dire qu'elle pourra encore produire des choses qui ont du sens. Évidemment, qui ont du sens pour nous, pas pour elle. Mais le problème, c'est que veut dire un langage radicalement délié dans sa fonctionnalité même, dans sa structure même, du référent dont il est question. D'un langage qui, de toute façon, n'intègre même plus le fait que c'est quand même du monde dont il est censé parler. Ben, là, on a toutes les conditions de la post-vérité. C'est-à-dire que la post-vérité qui existait déjà avant l'invention de l'IA et de l'IA générative, hein, cette idée qu'il y a une indifférenciation totale entre le vrai et le faux, qui n'est même pas l'idée d'un mensonge global, mais juste une sorte d'indifférence. C'est-à-dire, bon, je dis n'importe quoi, quoi. C'est vraiment le bullshit qui est rentré dans le dictionnaire d'Oxford.
Ça c'est, je me permets juste d'insister, parce que c'est très important, c'était aussi l'objet de vos précédents travaux. C'est-à-dire que la question de la post-vérité, c'est qu'on s'en fiche de savoir si la personne dit la vérité ou pas. Si on est au-delà, il y a une indifférence à la question de la vérité.
Exactement.
Et c'est presque pire, parce qu'à la limite, un menteur, on peut le mettre devant ses contradictions si on arrive à trouver le référent. Exactement. Terminal. Mais si la personne raconte absolument n'importe quoi, il n'y a pas de contradiction possible. Et c'est ce que vous dites, et jusqu'au point où on ne peut plus discuter.
Bah, un menteur, il se réfère encore à la vérité. Il sait qu'il triche. Alors que celui qui est indifférent à la vérité, encore une fois, on a plein d'exemples aujourd'hui, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Quand Trump parle des Haïtiens qui mangent les chats et les chiens, je veux dire, c'est n'importe quoi. Il le sait, mais il s'en fiche. C'est pas une question de dire quelque chose. C'est même pas une question de mentir. Attention, faites attention à vos animaux domestiques. C'est juste, allez, on dit ce truc-là et puis ça, il sait que ça va être viral, quoi. Et la viralité, c'est ça qui compte. Donc, En effet, ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, mais que Hannah Arendt avait déjà très bien identifié dans ses travaux, d'abord sur l'idéologie nazie et stalinienne, et donc sur cette déliaison, cette décorrélation entre le discours qui pouvait tourner de manière très cohérente, ce qu'on appelle l'idéologie radicalement émancipée de la réalité, et donc avec des autocritiques, par exemple, d'anciens communistes qui pourtant, qui croyant dur comme fer à Staline, finissaient par faire des fausses déclarations, y compris contre eux-mêmes, sachant pourtant qu'elles étaient fausses. Mais l'important, c'était le régime stalinien. Et donc finalement, l'erreur, enfin la fausseté ou le mensonge n'avait pas d'importance au regard de la valeur du régime. Donc voilà comment déjà elle avait repéré, identifié cette décorrélation entre le discours et le réel, où il y avait vraiment plus aucun de point de friction, plus aucune intersection entre les deux. Aujourd'hui, on n'est pas sous un totalitarisme au sens purement politique du terme, mais elle avait déjà identifié que cette déliaison entre le réel et le discours pouvait survivre au totalitarisme à travers la démocratie de masse et notamment à travers la publicité. Aujourd'hui, la forme la plus aboutie de ça, c'est en effet l'IA générative. Parce qu'encore une fois, pour fonctionner, elle n'a pas besoin du réel. Elle fonctionne en dehors du réel. Donc on a des productions langagières qui disent quelque chose du monde qui pourtant n'ont plus aucun rapport avec le monde. Donc là, les conditions de ce qu'elle avait déjà repéré et annoncé sont d'une certaine manière au rendez-vous, c'est-à-dire les conditions techniques. Encore une fois, c'est un langage qui peut fonctionner, mais qui fonctionne, hein. Il fonctionne vraiment bien, je veux dire, il a du sens, il est grammaticalement correct, mais qui fonctionne sans plus du tout prendre en compte l'extériorité, la référentialité sur laquelle il est pourtant censé s'appuyer.
C'est ce que, et comme vous citez, ce que Baudrillard va appeler le désert du réel, et finalement le réel est vidé de sa substance, et on met à la place du réel une simulation qui peut être multiple, qui peut être d'ailleurs chatoyante, hein, si l'on veut, mais qui est hors de tout référent.
C'est ça. En fait, on est dans un grand simulacre. Mais d'ailleurs, le monde virtuel concurrence de plus en plus le monde réel. Il a quand même vocation, j'espère que non, mais il a la finalité de le remplacer. Et il le remplace à plein d'égards. Dire l'arène politique, c'est là qu'elle se fait. L'espace public, il a migré dans cet espace privé, parce que c'est pas, enfin, privé-public, qui est quasiment un monopole des entreprises de la tech. Donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle un espace public, qu'on a extrêmement beaucoup de mal à réguler. Donc bon, c'est pas non plus exactement ce qu'on appelle un espace public, mais il n'empêche que la plupart des opinions se forment à cet endroit-là, c'est-à-dire dans un lieu du virtuel. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que les grands penseurs, les penseurs influents d'aujourd'hui, vraiment ce que j'appelle un grand penseur, sont ceux qui sont les producteurs de ce qu'on appelle les lumières sombres. Je pense que vous avez reçu Arnaud Miranda qui a écrit un livre là-dessus. Donc voilà, des gens comme Curtis Yarvin ou des gens comme ça, enfin les penseurs en fait de la tech et les penseurs du régime trumpiste et de l'alt-right, enfin et des néo libertaires et néo-réactionnaires, enfin il y a plusieurs branches, mais voilà, ce sont des geeks, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent, enfermés dans leur chambre, le corps n'existant plus, donc on revient à la question du corps, et on n'a pas besoin du corps hein, pour vivre dans ce monde-là, il est atemporel et il est aspatial. Donc il a toutes les deux dimensions de la perception sensible qui font qu'on a un rapport au monde perceptif, disparaissent. Et moi, je pense qu'il y a un lien très fort entre la nouvelle idéologie néo-fasciste, techno-solutionniste, trumpiste, je ne sais pas, on peut mettre plein d'adjectifs là-dedans, et le fait que les grands initiateurs de cette pensée soient des geeks, je pense que ce n'est pas du tout contingent. Je pense que c'est des gens dont les références sont des jeux vidéo, vivent dans un monde virtuel où le corps a été complètement éradiqué, d'où le corps a été évacué, et qui sont dans une sorte d'imaginaire techniciste qui fait que c'est extrêmement facile de penser le fascisme, la monarchie, de toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang. Enfin, rien n'est grave. Et donc, il y a une forme de légèreté dans la pensée qui est vraiment le propre de personnes dont on voit qu'ils ont quand même un petit problème avec le réel.
Oui, et puis un problème avec le réel, et c'est pas du tout une contingence, un problème avec la démocratie.
Alors ça, oui.
C'est-à-dire que, mais ça va de pair. Enfin, tout ce que vous Absolument. Nous décrivez depuis le début fait qu'on comprend qu'en fait, les deux sont forcément liés, et que dès lors qu'on ne peut pas choisir son réel, la démocratie est insupportable.
Exactement.
Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux congédier le réel et la démocratie d'un même geste, et comme ça, ça fait des vacances à tout le monde, et surtout aux dictateurs. Et alors, voilà. Vous évoquez quelque chose, justement, sur... Alors, je pense que c'est important, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises en passant, la question du corps, avec aussi un autre retournement qui est très important, qui est la question du bon sens. Alors, la cartésienne que vous êtes est évidemment sensible à cette question-là. Il y a effectivement le discours de Trump au moment de sa prise de fonction sur l'idée de la révolution du bon sens, et comment cette expression-là, qui a une vraie histoire philosophique, même si je pense que Trump est secondairement un lecteur de Descartes, qui consiste justement à transformer quelque chose qui est anglo, pour simplifier les choses, positif, en son contraire, et surtout pour venir opposer systématiquement le bon sens à la vérité, à la science et à l'ensemble de ces choses-là.
Alors ça, c'est vraiment la rhétorique populiste par excellence. Et en effet, le bon sens, au XVIIe siècle, c'était une forme de sens commun, ou au XVIIIe, chez Kant aussi, c'est-à-dire cette idée que... nous sommes tous pourvus d'une raison, et donc elle est bien amenée, si elle est amenée de manière, si elle est éduquée de manière méthodique, si elle est conduite de manière méthodique, c'est la fameuse méthode, on peut tous devenir mathématicien, polytechnicien, enfin je veux dire, c'est à la portée de tout le monde, parce qu'il y a une forme d'égalité de la pensée qui fait notre humanité et qui font justement une égalité radicale entre les hommes. C'est précisément parce que nous pensons tous, qu'on soit enfant, fou ou quoi que ce soit, nous avons tous la même capacité de penser, et après on la développe plus ou moins. Et donc, voilà, encore une fois, ça fonde la radicale égalité de l'homme, ce qui n'était pas le cas dans d'autres systèmes, comme le système aristotélicien, par exemple. Le prix est cher à payer chez Descartes, puisque ça fait de l'humanité une forme d'exception par rapport au reste du vivant, du fait même de la pensée. Mais bon, ça, je mets ça de côté, mais c'est parce que comme il est très attaqué là-dessus. Le prix à payer d'une égalité radicale, c'est effectivement, à un moment donné, cette sortie, uniquement par la pensée, hein, évidemment pas par le corps, du reste du vivant. Donc, voilà, tout ça pour dire que le bon sens, c'est vraiment ce qui fait ce dont nous sommes tous pourvus et qui fait que nous sommes tous potentiellement des citoyens éclairés, des philosophes, pourquoi pas, des mathématiciens. Enfin, on est tous capables de faire ça. Et puis, effectivement, on assiste aujourd'hui. Alors, et puis arrive Trump. Il y a eu quelques petits siècles entre les deux. Mais c'est vrai que si on écoute les discours, il y a eu toute une série de discours dans lesquels il en appelle, il revendique le bon sens. On dit, bah zut, alors il a lu le discours de la méthode, parce qu'effectivement, je pense pas. Mais le bon sens, ça veut dire quoi, le bon sens? Alors évidemment, dans sa bouche, ça veut dire le bon sens près de chez nous, quoi. Enfin, je veux dire, un chat, faut appeler un chat, ou bien faut, je sais pas, l'eau s'est mouillée et le feu ça brûle. C'est ça le bon sens pour lui. Alors que justement, si on reprend Descartes, le feu ça brûle pas. Dire le feu ça brûle, c'est une projection là aussi anthropomorphique et ça. Mais bon, laissons ça de côté. En tout cas, chez Trump, le bon sens, c'est, bah, je sais pas, il suffit d'ouvrir les yeux. Regardez le nombre de gens qu'il y a dans des prisons, est-ce qu'ils sont pas un peu métissés? Ben voilà, le bon sens, la première conséquence, et ben, du coup, les immigrés ou les basanés sont plus dangereux que les blancs. Enfin, voilà, c'est ça le bon sens de Trump, c'est-à-dire, ben, il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Ce qui est d'ailleurs très drôle, parce qu'on disait que le corps était en train de s'effacer dans ce genre de rapport au monde, et là, justement, il en appelle au corps, il dit, ben, il suffit de regarder. De la même manière qu'un platiste dit, bah, il suffit de regarder l'horizon, c'est plat. Donc, la Terre est ronde, c'est QFD. Donc voilà, on en est là du degré de raisonnement. C'est-à-dire qu'à l'époque où le corps est biffé, où le corps n'est plus entendu parce que de toute façon, il n'est plus activé, il n'est plus convoqué dans le rapport à l'écran, alors un petit peu par quand même le pouce ou l'index, mais en tout cas, il n'est plus mobilisé. Dans ce rapport-là au monde, Eh bien, pour débouter la prétention des scientifiques et autres élites, parce que c'est ça aussi l'idée hein, dans la rhétorique populiste, eh bien, on dit, non, mais regardez, il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Franchement, qui peut prétendre que la Terre est ronde ? Il faut vraiment être débile. Et donc, au moment où le corps disparaît, c'est pourtant à lui qu'on fait appel pour débouter les scientifiques. Donc bon, on est au degré zéro quand même de la réflexion, mais il n'empêche que ça marche. Ça marche parce que cette idée que le bon sens, quand même, c'est un petit peu justement l'apanage du peuple, ce que disait Descartes, c'était la même chose. Hein. Il disait le bon sens, c'est l'apanage du peuple, sauf que pour lui, le bon sens, ça voulait dire exactement l'inverse. Et donc là, on assiste à un retournement de situation qui est à la fois pathétique, désolante et en même temps qui marche super bien.
Mais ce que, in fine, c'est aussi la vraie question, c'est pourquoi ça marche. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'état dans lequel, ce qu'on évoquait au début, l'IA trouve la société démocratique qui fait que ça fonctionne ? Est-ce que parce que les contre-pouvoirs sont inefficaces ? Parce que vous l'évoquez aussi, vous avez évoqué Aristote qui évoque le désir de savoir comme le désir de le partager, mais ce savoir, il a lui aussi un coût qui est l'effort qu'il faut pour l'obtenir, et que cet effort, on est plus prêt véritablement à le faire. Et comment on a réussi à enchaîner ces énoncés sans sombrer nous-mêmes dans la réaction ?
C'est clair, c'est tout le problème. Donc là, je vais faire le petit moment réactionnaire. Le goût de l'effort. Non, mais... Bien sûr que l'effort est l'un des... Enfin, déjà, toutes les réponses sont bonnes à prendre là, dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de... Il y a plein de facteurs hein, qui expliquent pourquoi ça marche. Il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi ça marche. Mais on peut en prendre quelques-unes. En effet, la question de l'effort. Oui, il ne s'agit pas de revaloriser l'effort à tout prix en disant il faut qu'on se fouette et qu'on se fasse mal parce que c'est vraiment ça qui est le plus excitant. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que être humain, c'est se transformer, c'est s'éduquer, c'est s'approprier des choses. Et sans un minimum d'effort et de temporalisation, peut-être le mot temporalisation, il fait moins réac, de temporalisation des choses, c'est-à-dire d'appropriation dans le temps. Et donc, ça demande effectivement une certaine persévérance, une certaine continuité, et donc un certain effort. Sans ça, on reste tel quel. C'est-à-dire que grandir, on voit bien, se former, aller à l'école, oui, ça demande, un peu de temps. Et c'est drôle parce qu'on dit que c'est réac de revaloriser l'effort. Mais, je veux dire, personne n'aurait l'idée... parmi des entraîneurs de grands sportifs, de dire non, mais surtout vraiment, te fatigue pas trop. Et la compète, c'est la semaine prochaine, mais cool parce qu'on va pas être trop réac ici. Surtout, ne fais pas ton 400 mètres, tu vas avoir mal aux jambes. En sport, mais ça passerait par l'idée de personne de dire fais pas d'effort si tu veux y arriver. Et puis, si tu veux, après, t'es pas obligé de vouloir faire du sport de haut niveau, mais visiblement, ça te plaît. Voilà donc. Pourquoi est-ce que dans l'effort intellectuel, ça devient tout de suite hyper réac, machin et tout ? L'effort intellectuel aussi, ça demande. Enfin, l'esprit critique, c'est aussi un muscle, ça se travaille. La première chose qu'on est tenté de faire, c'est de croire les gens, c'est de croire les autres, c'est de ne surtout pas penser, parce que penser, c'est difficile. Non seulement ça demande un effort, mais surtout c'est déstabilisant, parce que parfois il se trouve qu'on n'est pas d'accord avec les autres et que c'est compliqué de pas être d'accord avec les autres, parce que ça rend très seul. Et puis on doute, et puis voilà. Donc il y a tout un tas d'angoisses à apprendre la pensée critique, mais c'est un apprentissage, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de spontané. La spontanéité, elle va vers le plaisir, elle va vers l'immédiateté. C'est ce que Freud appelait le principe de plaisir. C'est-à-dire, il y a le principe de plaisir, puis il y a le principe de réalité. Le principe de réalité fait qu'on est obligé d'intégrer, de s'approprier ou de temporaliser des obstacles qu'on rencontre. Sinon, c'est quoi le sans-effort ? Alors, reprenons l'argument céréac d'aimer les efforts, mais on peut leur opposer, dans ce cas-là, on est dans un rapport purement consommateur au monde. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire d'efforts, en fait, ce sont les rois du consumérisme. Ce sont les rois de la société de consommation. Ce sont les super-capitalistes. Voilà ce que c'est une société sans effort. Et en effet, ce que nous promettent l'immédiateté d'un ChatGPT dès qu'on lui pose une question ou... des nouvelles technologies, c'est de la consommation. Or, la pensée critique, ça ne peut pas se consommer. ça doit se vivre. Et ce vivre, ben, il y a une temporalité du corps, de la vie, une temporalité qui est en effet évacuée des nouvelles technologies. Mais en réalité, soi-même, si on veut éprouver, si on veut exister, la différence entre exister au sens presque transitif du terme, si on veut exister sa propre pensée critique, si on veut la mettre en œuvre et en faire une épreuve existentielle, alors oui, pardon, ça demande un effort. Je veux dire, la spontanéité ne nous mène rarement vers les choses les plus difficiles. Alors, il ne s'agit pas à tout prix de choisir le difficile, mais il s'agit de savoir qu'il y a certaines choses et se former soi-même et dépasser son premier élan qui est toujours plus égoïste, qui est plus jouissif, qui est de l'ordre de la consommation. Bah, il y a des choses parfois qui méritent d'être différées et donc qui mobilisent une forme de résistance et donc d'effort. C'est pas que négatif. Alors, je dis pas revenons aux efforts, etc. etc. Je suis pas du tout le discours de la Troisième République et il faut taper avec une règle en fer sur les doigts des élèves lorsqu'ils comprennent pas. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de revaloriser quelque chose qui fasse obstacle à la seule consommation comme modèle de rapport au monde, parce que c'est un modèle délétère.
Et qui, effectivement, ce que vous dites aussi, prive de cet effort qui a comme horizon, finalement, la constitution du sujet. Et qui est avec ce paradoxe que vous évoquez, qui est que, au même moment qu'on met de côté cette question de l'effort ou de la constitution du sujet sur un temps long, on insiste sur la performance, parce qu'en même temps, on est dans une société qui ne cesse de faire des injonctions à l'efficacité, à la performance. Et on n'a jamais vu autant de gens courir et se faire mal pour apprendre si peu. Bon, ça, c'est un autre débat.
Exactement. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est plus qu'un paradoxe. C'est qu'en fait, prenez cette idée de l'immédiateté et donc d'une certaine forme de consommation du savoir, de la production intellectuelle, etc. Parce que là, on parle de production intellectuelle parce que ChatGPT, c'est ça que ça permet. Hein. Ça permet de déléguer la pensée. C'est quand même là où le bât blesse, quoi. On délègue pas des tâches répétitives et chiantes, on délègue la pensée. C'est là où gît le danger. Et donc, penser que cette idée d'une immédiateté consumériste de la pensée doit être privilégiée, c'est aussi une manière de dire, ceux qui auront la chance de faire des études, ils vont s'en sortir, puis les autres, c'est pas grave, vous avez votre prothèse, et puis vous pouvez prompter, quoi. En réalité, c'est une pensée ultra inégalitaire. Elle est là, la réaction, la vraie réaction. Et donc, non, je pense que... évidemment, les nouvelles technologies vont accroître les inégalités dans plein de domaines et pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que les privilégiés auront des espaces sanctuarisés à l'intérieur desquels, eux, on leur apprendra bien à penser et à réfléchir, et puis les autres, ça ne sera pas la peine. Et donc, moins ils feront l'effort, moins ils auront l'habitude de réfléchir et plus ça sera des candidats idéaux aux élections extrêmes, on va dire. Et donc, voilà, on fabrique une humanité à qui on donne à consommer de la pensée un peu agréable et jouissive, et puis un peu, qui fait un petit peu peur, et puis qui est en même temps un peu paternaliste. Et donc, on est en train de produire des électeurs du RN, en gros. C'est ça qui se passe. Et donc... la pensée de l'effort, c'est réactionnaire, c'est ça qui est réactionnaire en réalité.
Alors, après cette grande traversée de négativité, on n'a pas évoqué le titre du livre sur le caractère inappropriable. Est-ce que justement il y a une trouée, quelque chose qui fasse qu'on peut avoir un semblant de lumière? Parce que on n'a pas évoqué un autre mot parmi tous les grands mots qui ont été évoqués ce soir, mais qui est effectivement celui de la question de l'intelligence, et que justement, est-ce que l'intelligence, puisque le langage lui peut être partagé, est-ce que c'est ça qui est inappropriable? Est-ce qu'il y a une intelligence spécifique de l'humain avec son corps? Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire que peut-être il y a une lumière au bout du tunnel?
Non, mais il y a quand même une lumière. Non, mais d'abord, je précise quand même que je suis pas technophile, que j'utilise ChatGPT, que je trouve que c'est une invention technophobe, pardon. C'est un mauvais lapsus. Mon inconscient a dit la vérité. Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un outil génial. Mais pour revenir justement à la question précédente sur les inégalités, c'est un outil génial pour ceux qui savent. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire, c'est un assistant ultra performant pour quelqu'un qui fait de la recherche, pour quelqu'un qui fait de la médecine, enfin, mais parce que déjà il sait, c'est-à-dire qu'il a déjà acquis tout ça. Et donc il peut avoir un usage à la fois critique et stimulant avec son IA générative. Pour des jeunes qui n'ont pas encore été formés, qui n'ont pas encore accès ni au savoir, ni à la réflexion, etc., enfin, une certaine formation de l'esprit critique, etc., c'est un piège. Donc, juste, je reviens là-dessus pour dire, je ne suis pas du tout contre l'IA générative, juste pour encadrer son usage. Et donc déjà, la question de l'encadrement et de la régulation, elle est majeure, et ça, c'est l'aspect politique de la chose, mais ce n'est pas là-dessus que vous m'interrogez pour clore cette discussion, c'est plus sur, effectivement, qu'est-ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle. Si l'intelligence est du calcul, comme certains penseurs l'ont suggéré, hein, je pense à quelqu'un comme Thomas Hobbes, par exemple, alors c'est pareil, alors la machine est plus intelligente que l'homme. Tout en sachant quand même que, évidemment, le langage produit par la machine, c'est du langage asémantique, c'est-à-dire qu'elle-même ne le comprend pas. Là où l'homme se différencie, et on en revient d'une certaine manière à Descartes, c'est par l'épreuve de sa pensée, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui la conscience, enfin, voilà, avoir conscience, ce qu'on appelle le cogito, avoir conscience qu'on est en train de penser ou qu'on est en train de douter. Donc ça, c'est une première chose, cette conscience, la machine ne l'a pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'après tout, je ne sais pas si l'autre a une conscience. Qu'est-ce qui me le prouve ? Descartes disait, c'est le langage, c'est le fait qu'il me parle. Ça ne marche plus. Donc voilà, la conscience, moi, je l'éprouve en première personne, mais je ne peux pas l'éprouver en troisième personne. Donc voilà, on peut se dire chacun, moi, j'éprouve ma conscience, donc quand même, j'ai l'impression que je ne suis pas une machine et que la machine, elle n'en a pas. Bon, ça, c'est une première chose, mais en fait, ce n'est pas totalement satisfaisant. Je pense que, et ça rejoint un petit peu le précédent livre que j'avais écrit sur Vivre sans, une philosophie du manque, je pense que la spécificité de l'homme, c'est toujours du côté du sang, du manque, de la vulnérabilité, du questionnement. La philosophie, elle commence par un questionnement qui est un questionnement qui n'appelle pas une vraie réponse. Quand Socrate pose des questions aux uns et aux autres, ce qu'il fait, c'est juste qu'il les déstabilise. Il leur montre qu'en fait, ce qu'ils croyaient savoir, ils ne le savent pas vraiment. Mais jamais il obtient une réponse à ces questions. Autrement dit, il y a une inadéquation entre sa question et la possibilité même de la réponse. Lorsqu'on demande un truc à ChatGPT, la réponse, elle est parfaitement adéquate à notre question. Il n'y a aucun imprévu, il n'y a rien qui vient interrompre cette espèce d'échange qui, en réalité, est homogène, quoi, et clos en lui-même. L'altérité, c'est précisément le moment où, tout à coup, il y a une inadéquation, où il y a un écart, où la réponse n'est pas du tout celle qu'on attendait par rapport à la question et produit quelque chose de neuf. L'intelligence humaine, si c'est du côté du manque, c'est celle qui est capable, précisément parce qu'elle a conscience de son manque constitutif, de la condition humaine qui est d'être mortelle, enfin, de sa finitude, c'est celle qui, au regard de cette condition tragique, va essayer de produire du sens. C'est précisément lorsque on manque, lorsqu'on n'a pas la réponse, qu'on va essayer de produire du sens. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme ? C'est produire du sens, produire des histoires. C'est pareil, produire des histoires, c'est aussi produire du sens. Autrement dit, c'est lorsque on est face à quelque chose, à un obstacle ou à un vide ou à quelque chose qu'on n'est pas capable justement de penser, eh bien, on est obligé d'inventer, on est obligé de produire. Ça, la machine, elle ne peut pas le faire. Elle n'est pas vide, elle est du côté du plein. La machine, elle est du côté de la totalité. ChatGPT, il fonctionne de façon autonome et il est du côté de la puissance. C'est-à-dire qu'il aura toujours des réponses. Il en aura de plus en plus. Il aura toujours des réponses. Et de toute façon, les concepteurs des intelligences artificielles, comme des réseaux sociaux, sont du côté de la puissance. Ce qu'ils veulent, c'est toujours plus. Même leur image de l'humanité, c'est une image transhumaniste. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'humanité, elle soit totale, elle soit immortelle, elle soit sans vulnérabilité, sans faille, que la vieillesse n'existe plus, que la maladie n'existe plus et que la mort n'existe plus. Allons-y. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est éradiquer toute fragilité. Et pourtant, c'est bien dans la fragilité qu'on a à chaque fois inventé des nouvelles choses, qu'on a essayé de produire des ouvrages, qu'on a essayé de produire des connaissances aussi scientifiques, qu'on a essayé d'inventer des choses nouvelles. Et ça, cette question de la pure invention qui naît en fait de la prise de conscience de l'absence de réponse, et donc qui nous convoque, qui nous contraint à essayer de produire du sens, ça, la machine ne l'a pas. Et donc, je dirais que ce qui fait la spécificité de l'intelligence humaine comme du créateur, hein, parce qu'après tout, maintenant, ChatGPT peut écrire des livres, c'est précisément de rencontrer ce vide, de rencontrer cette absence et d'essayer de la sublimer en produisant quelque chose qui relève du sens.
Merci beaucoup pour ce magnifique éclaircissement, Mazarine Pinjot.